Bonjour Philippe Evon.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de recherche pour le laboratoire de chimie agro-industrielle. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de matériaux biosourcés. Voilà un vaste programme. On va expliquer beaucoup de mots, mais on va commencer par le début. On va essayer de comprendre d'abord quel est vraiment votre métier. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement où vous travaillez et quelle mission vous avez quand on dit ingénieur de recherche dans le laboratoire de chimie agro-industrielle? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là et ce poste-là?
Alors, bah écoutez, en quelques mots, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Donc, le laboratoire de chimie agro-industrielle, c'est un laboratoire académique. On est rattaché à l'Institut National Polytechnique de Toulouse et on est en fait plus précisément une unité mixte de recherche entre cet institut et INRAE, qui est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et donc ce laboratoire qui existe depuis 50 ans, son objet, c'est de développer des bioproduits, c'est-à-dire des produits issus de coproduits agricoles ou de coproduits issus d'une première transformation agro-industrielle, pour en faire notamment des matériaux. Et c'est précisément dans ce domaine des matériaux biosourcés que moi je travaille. L'objectif de ces matériaux étant de remplacer à terme des matériaux qui sont plutôt aujourd'hui majoritairement issus de ressources fossiles et qui donc utilisent des ressources qui ne sont pas renouvelables pour être fabriquées.
Donc vous travaillez en fait selon les demandes des industriels qui veulent améliorer leur performance sur un point ou changer de matériaux parce qu'eux-mêmes sont boostés par les utilisateurs, les consommateurs en fait.
Alors il y a effectivement une évolution du cadre réglementaire qui contraint aujourd'hui les fabricants de matériaux à les faire à partir de matières de plus en plus renouvelables. On a aussi évidemment une forte demande de l'utilisateur, donc du grand public lui-même, qui souhaite davantage de renouvelabilité dans les produits et donc notamment dans les matériaux qu'ils utilisent.
Donc ça veut dire quoi, pardon? Ça veut dire des produits qui durent plus longtemps, qui polluent moins et qui peuvent être changés plus facilement,
c'est ça? Ça veut surtout dire des produits qui ne sont pas issus du pétrole et donc d'une ressource non renouvelable, dont on sait tous aujourd'hui qu'elle contribue fortement au réchauffement climatique. Les matériaux qu'on fabrique ne sont pas forcément plus durables. Certains d'entre eux peuvent l'être, mais la majorité ne le sont pas quand même. L'objet premier, c'est surtout de ne plus être dépendant d'une ressource non renouvelable comme le pétrole, qui évidemment s'épuise au fur et à mesure qu'on l'exploite.
Est-ce qu'on peut, dans tous les cas de figure, remplacer le pétrole par des matériaux biosourcés? Enfin, c'est efficace pour tout?
Pour tout type d'utilisation, ça ne fonctionnera pas nécessairement. Il faut avoir à l'esprit que la plasturgie fossile, donc les plastiques issus du pétrole, est un domaine qui maintenant a un petit peu plus de 75 ans d'existence. Et donc on a aujourd'hui sur le marché des plastiques issus du pétrole qui ont des performances mécaniques très élevées. Donc nous, notre objectif, il est évidemment pas de se substituer à la totalité des usages de ces matériaux issus de matériaux fossiles. Néanmoins, vous avez des tas d'utilisations, vous avez des tas d'usages où le polymère issu du pétrole n'est pas nécessairement utile. On peut parler notamment des matériaux de construction où vous avez effectivement possibilité de remplacer des colles de synthèse issues du pétrole par des liants naturels. Ça peut être des amidons, ça peut être des protéines, des lignines.
Donc tout ça, c'est des choses que vous testez, que vous expérimentez ici à Tarbes.
Alors exactement. Donc nous en fait, notre rôle premier, c'est d'acquérir de la connaissance. Donc là, c'est vraiment plutôt le volet académique des recherches qu'on va développer. Et d'ailleurs, ces recherches, elles vont majoritairement se dérouler sur le site toulousain du laboratoire de chimie agro-industrielle. Mais néanmoins, dans la mesure où les résultats de nos recherches, ce sont des pièces d'usage, assez rapidement, on a été sollicité par des industriels. Alors, ces industriels, ça peut être des fabricants de matériaux qui souhaitent remplacer des matériaux issus du pétrole par des matériaux biosourcés, ou ça peut aussi être, vous voyez, par exemple, des coopératives agricoles qui disposent d'un coproduit et qui, ce coproduit, souhaite le valoriser autrement qu'en l'utilisant uniquement pour un apport de matière organique au sol. Mmh. Et donc, assez rapidement, on a été confronté par cette problématique de la montée en échelle. Fabriquer un matériau à l'échelle du laboratoire et donc n'en fabriquer quelques spécimens, c'est évidemment le début de notre travail. Néanmoins, dès qu'un industriel nous sollicite, il faut qu'on soit en mesure de lui montrer de quelques échantillons fabriqués, on peut aussi fabriquer ce même matériau à des cadences beaucoup plus élevées qui sont celles de l'industrie.
Et donc là, ça veut dire d'autres partenaires, d'autres collaborateurs, ça veut dire qu'après vous, il y a une étape supplémentaire qu'il faut anticiper, quoi.
Alors, ça veut dire surtout que assez rapidement, il a fallu qu'on se pose la question d'acquérir des machines de plus grande capacité. Mmh. Et en fait, c'est de ce constat-là qu'est né le projet Agromat au milieu des années 2000. Donc, à Agromat, cette halle, elle est située sur le site de l'ENI de Tarbes, même si on n'a effectivement pas de lien direct avec l'ENI ni même avec l'UTOP, fraîchement créé.
En tous les cas, c'est sur le site. C'est dans le.
Donc, on est sur le site. Et donc, l'objectif d'Agromat, ça a été justement d'acquérir des outils de plus grande taille, nous permettant de prouver que notre procédé développé à l'échelle du laboratoire, il est toujours robuste, efficace, productif sur des machines qui sont capables d'avoir des capacités égales à celles que les industriels utilisent aujourd'hui.
Alors là, sur le site Agromat, pour qu'on comprenne bien, vous êtes combien à travailler et quels métiers travaillent dans cette halle Agromat ? Vous êtes ingénieur, avec vous, qui travaille en
fait ? Alors, écoutez, actuellement, on est une petite dizaine de personnels. Au total, actuellement, on est 9. Donc on est deux personnels permanents qui assureront le fonctionnement de la halle et qui évidemment allons chercher les contrats de collaboration de recherche avec les industriels. Et puis après, en fonction des contrats qu'on obtient, on va être amené à recruter des personnes pour des durées plus ou moins longues qui peuvent aller jusqu'à 3 ans lorsqu'on parle d'une thèse de doctorat. Donc on a quand même assez régulièrement des jeunes étudiants qu'on accueille en thèse et qu'on forme à leur futur métier de docteur pendant les 3 années du contrat sur lequel elles sont impliquées. Et nous, les gens qu'on recrute, ça va plutôt être des gens qui ont un profil master recherche ou ingénieur et qui ont des spécialisations dans le domaine de la chimie du végétal ou de la science des matériaux. Alors idéalement les deux c'est mieux, même si évidemment on n'a pas toujours affaire à des jeunes gens qui ont ces doubles compétences. On essaie quand même toujours de recruter des gens qui ont au moins l'une de ces deux compétences, et puis après on les forme au fur et à mesure de l'avancée du projet. Et assez rapidement d'ailleurs, les étudiants eux-mêmes ou les jeunes salariés eux-mêmes deviennent autant spécialistes du sujet que qu'on peut l'être soi-même.
Alors après, les biomatériaux qui sont mis en circulation pour remplacer le pétrole ou d'autres produits, ils sont expérimentés, ils sont testés, vous avez des retours là-dessus? Enfin, j'imagine qu'il y a un ajustement permanent dans la manière de fabriquer, de concevoir en fait ces matériaux qui vont quand même révolutionner, notamment, vous parliez tout à l'heure des constructions, mais rien que dans ce domaine-là, on peut se dire que ça va révolutionner toute une chaîne de métiers en fait.
Alors en fait, c'est bon. Nous, on a tout ce qu'il faut évidemment pour optimiser les conditions de mise en forme, mais aussi tester les matériaux en termes d'usage, en termes de propriétés mécaniques, en termes de tenue au vieillissement, en termes de tenue à l'eau, puisque c'est souvent aussi pour les matériaux biosourcés un petit peu leur défaut, qui est une sensibilité à l'eau plutôt exacerbée par rapport aux matériaux issus du pétrole. Et puis après, évidemment, quand on se destine à remplacer un objet par un matériau biosourcé, on va d'abord regarder ce que sont les propriétés du matériau que notre client souhaite remplacer. Et on va essayer, avec nos propres matériaux issus du végétal, d'atteindre les propriétés mécaniques de durabilité et de tenue à l'eau que le matériau d'origine peut avoir. Après, dans le domaine de la construction, c'est assez réglementé. Donc quand on a effectivement un nouveau matériau qu'on souhaite positionner sur le marché de la construction, ben vous avez un cadre relativement contraint qui doit être respecté. On doit notamment respecter la garantie décennale. Donc s'assurer que notre matériau jouera le même usage oui. pendant au moins les 10 premières années de la vie de ce matériau dans la maison. Donc ça impose effectivement un certain nombre de contraintes et ça peut rajouter du temps jusqu'à ce que le matériau puisse lui-même être utilisé
oui,
dans la maison.
Pour que vous ayez du recul suffisant.
Voilà. Néanmoins, vous avez quand même des tas d'usages, notamment les usages uniques ou très peu durables.
Par exemple ?
Alors, on va parler, vous voyez, par exemple, des éco-cups. Hein. Les éco-cups, elles ont une vocation à ne pas forcément être utilisées très longtemps. Mmh. On peut aussi parler des couverts de pique-nique jetables. On peut aussi parler des pots de repiquage pour plantes.
Oui.
On a tous beaucoup de pots de repiquage pour plantes dans nos maisons ou dans nos jardins. Bon, bah, on a été amené, il y a quelques années de ça, à développer des pots de repiquage, non pas à partir de polymères issus du pétrole, mais à partir de protéines végétales, si bien que le pot jouait non seulement un rôle de contenant, mais aussi on pouvait mettre le pot en terre avec la plante et faire en sorte que ce pot se dégrade une fois qu'il était mis en terre, ce qui permettait du même coup de nourrir la plante au début de sa croissance. Donc voilà typiquement le genre d'exemple d'usage unique ou de courte durée pour lesquels les matériaux biosourcés ont tout leur sens.
On marque une pause si vous voulez bien Philippe Evon et puis on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre cette interview donc sur les matériaux biosourcés. Voilà, on apprend beaucoup de choses aujourd'hui sur Radio Présence, on se retrouve dans quelques minutes. Nous sommes toujours en compagnie de Philippe Evon, ingénieur de recherche pour le laboratoire de chimie agro-industrielle à la Halle Agromat à Tarbes. Alors Philippe Evon, vous nous avez expliqué déjà pas mal de choses hein, sur votre métier, ce que sont ces matériaux biosourcés. Vous avez évoqué en première partie la réglementation. Je voudrais savoir si vraiment c'est toutes ces réglementations qui sont données. Par exemple, on parlait des constructions, voilà. Des bâtiments. Est-ce que toutes les nouvelles normes qui arrivent, on a l'impression qu'il y a des nouvelles normes sans cesse. Est-ce que vraiment ça vous aide, ça vous booste dans votre métier ou est-ce que ce sont des contraintes ?
Alors, ce sont des contraintes pour les fabricants de matériaux, puisque ça les oblige à changer de paradigme, hein, en quelque sorte. Hein. Donc, vous avez aujourd'hui des gens qui doivent recomposer les ingrédients des matériaux qu'ils fabriquent pour justement s'adapter à ces nouvelles normes. Et nous, écoutez, quelque part, on en bénéficie.
Mais il faut quand même que vous suiviez tout le temps et que vous adaptiez sans arrêt à ces normes qui ne cessent de changer, d'évoluer.
Oui, alors de toute manière, on a déjà un premier intérêt, un premier gros avantage, hein, c'est que les matières qu'on utilise en guise de matières premières, elles sont issues de cultures pérennes qui se produisent tous les ans. On a, vous voyez, par exemple, beaucoup travaillé notamment sur les coproduits des cultures du tournesol et du maïs, qui sont très largement présentes dans le sud-ouest de la France. Et donc chaque année, évidemment, l'agriculteur qui produit du tournesol, au-delà de produire de la graine, il va produire des tiges qui contiennent des fibres qui, pour nous, vont être vraiment d'intérêt dans la fabrication des matériaux.
Donc ce qui était des déchets pour le producteur devient finalement aujourd'hui un outil qui peut servir à toute une autre voie que l'agriculture.
Oui, alors les cannes de tournesol, pour ne citer que cet exemple-là, mais on pourrait parler de la même chose pour les cannes de maïs, ne sont pas totalement des déchets quand même pour l'agriculteur, puisqu'en fait, elles vont permettre, en se décomposant naturellement dans le sol, d'apporter de la matière organique au sol et donc de l'enrichir.
En tous les cas, vous proposez d'en faire un autre usage.
Donc nous, on propose d'en faire un autre usage, à condition évidemment de ne pas retirer de la même parcelle tous les ans la totalité des cannes qui pourraient être produites par ces deux cultures. Mais on va surtout justement permettre aux agriculteurs d'accéder à une source de revenus supplémentaires.
Oui. Alors, par exemple, là, vous parlez du Sud-Ouest, donc les agriculteurs avec lesquels vous travaillez, comment vous les choisissez ? C'est eux qui manifestent leur souhait de travailler avec vous ? Vous les cherchez ?
Oui, alors souvent, nous, on travaille beaucoup avec les coopératives agricoles.
Oui.
On a historiquement, et ce depuis plusieurs années maintenant, beaucoup travaillé avec la coopérative Vivadour dans le département du Gers, notamment sur cette fameuse canne de tournesol que j'évoquais juste avant. La canne de tournesol, tout particulièrement, a un assez gros intérêt puisqu'elle va apporter des fibres dans sa partie périphérique qu'on va utiliser pour fabriquer des matériaux. Et donc les fibres vont contribuer à renforcer mécaniquement les matériaux qu'on va fabriquer.
C'est quoi comme matériaux, par exemple ?
Donc ça va être, par exemple, vous voyez, des panneaux de fibres qui vont se substituer, par exemple, aux panneaux de contreplaqué ou aux panneaux d'aggloméré qu'on utilise dans les constructions ou en ameublement. Et on va aussi beaucoup utiliser la moelle de ces tiges, qui est assez intéressante puisque naturellement il s'agit d'une matière très poreuse, faite d'une structure alvéolaire qui, lorsqu'on l'observe en microscopie électronique, rappelle par exemple le polystyrène expansé.
Ah oui.
Et on a eu beaucoup de travaux ces dernières années avec les collègues du LMDC, donc le laboratoire de génie civil de l'INSA de Toulouse. On a eu beaucoup de travaux sur le développement de matériaux d'isolation pour les bâtiments à partir de cette moelle de tournesol. Et dans le cadre des panneaux, pour revenir aux panneaux et à la question sur les aspects réglementaires qui m'étaient posés juste avant, nous, tout notre développement méthodologique autour de ces panneaux de fibres végétales, c'est justement de remplacer les liants synthétiques qui sont aujourd'hui utilisés dans les panneaux de bois conventionnels par des liants naturels. Et ça permet de minimiser les émissions de composés organiques volatiles par ces matériaux pendant leurs usages et de rendre les aires intérieures des maisons et des bureaux beaucoup plus respectueux de l'environnement, mais aussi et surtout de la santé humaine. Et ça, c'est un cadre réglementaire qui nous aide beaucoup également. On pense souvent à la fabrication du matériau et à ses propriétés. Et on occulte trop souvent, de mon point de vue, le caractère de l'innocuité du matériau qu'on développe.
Oui.
Et incontestablement, nos matériaux sont plus respectueux de la santé humaine.
Oui, c'est vrai, parce que dans les esprits, en fait, ça doit respecter l'environnement, mais c'est vrai qu'on occulte assez facilement la dimension de la santé, alors que...
Oui, et donc là, vous voyez, par exemple, dans ce cadre réglementaire, tous les panneaux fabriqués à partir de colles de synthèse contenant du formaldéhyde sont des matériaux qui vont être amenés à devoir évoluer dans les années qui viennent. Le formaldéhyde, donc, c'est un produit qui est naturellement émis par les panneaux de bois collé qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce, mais qui néanmoins a été classé cancérigène depuis quelques années. Donc aujourd'hui, les panotiers, donc les industriels qui fabriquent ce type de panneaux, ont déjà l'obligation de fabriquer des panneaux qui émettent moins de formaldéhyde. Et à l'horizon 2035, normalement, l'utilisation de résine à base de formaldéhyde sera tout bonnement interdite. Donc les liants naturels qu'on développe peuvent être une alternative pour le remplacement des colles à base de formaldéhyde à l'horizon 2035.
Alors ça peut être une alternative, on entend que ça devrait l'être pour notre bien, pour le bien de l'environnement, mais tout cela en fait ne sont pas des choses obligatoires dans un projet de rénovation ou de construction. Alors il y a les normes, on en a parlé, mais en fait les normes ne contraignent pas au point d'obliger à utiliser uniquement des matériaux biosourcés aujourd'hui.
Alors, pas toutes, mais pour le cas spécifique des panneaux, vous avez déjà une
enfin,
diminution.
Le champ est très large, en fait.
Alors, le champ est très large, hein, mais dans le domaine de la construction, vous avez déjà maintenant des contraintes réglementaires qui obligent à limiter les émissions de composés organiques volatiles. Et vous avez quelques composés organiques volatiles qui seront tout bonnement interdits des matériaux à l'horizon 2035 pour le formaldéhyde spécifiquement.
Est-ce qu'on aurait pu le faire plus tôt ? Est-ce qu'on avait les compétences d'ingénierie comme vos compétences ? Est-ce qu'on en avait suffisamment pour faire ça plus tôt, pour prendre conscience et changer les choses avant ?
Alors, moi, je pense que même si on aurait pu le faire plus tôt, ça n'est jamais trop tard. Ce qui est compliqué aussi, c'est pour les industriels d'adapter leur outil de fabrication à ces nouveaux produits. qu'on va leur demander d'utiliser à terme en remplacement de produits issus du pétrole qui jouaient très bien leur rôle et toutes leurs installations ont été dimensionnées et pensées en fonction de la réalité de la fabrication des matériaux dans les années 80.
C'est vrai que c'était efficace, c'était pas si cher et on ne voyait pas que ça pouvait être nocif.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que la problématique des émissions de COV, c'est une problématique qui est assez nouvelle. Ça date d'il y a, on va dire, à peu près une quinzaine d'années maintenant. Et en fait, aujourd'hui, on se préoccupe effectivement beaucoup plus de l'environnement dans lequel on vit que ça ne pouvait être le cas au début des années 2000. Vous avez des cas spécifiques, notamment les écoles, les collèges, les lycées, où cette préoccupation de matériaux qui émettent moins de composés toxiques est devenue maintenant quelque chose de très prégnant. Donc les industriels vont devoir s'adapter. Néanmoins, très souvent, des outils de production sont des outils très coûteux. Oui. Donc il faut aussi leur laisser le temps de faire cette mutation et ne pas chercher à leur imposer plus vite qu'ils ne le pourront des changements dans leur modèle industriel qu'ils ne seraient pas en mesure de faire à court terme.
Oui, cette question du coup, je voulais terminer par ça justement parce qu'effectivement, si c'est cher pour les industriels, le coût se répercute sur les usagers. In fine, construire sa maison, ça peut coûter très très cher si on ne veut, et c'est légitime, de construire qu'avec des matériaux qui soient plus sains.
Oui, d'une manière générale, c'est un petit peu, on va dire, la limite des matériaux biosourcés qu'on développe. À performance d'usage égale, on a affaire à des matériaux qui sont plutôt plus élevés en termes de coût que des matériaux conventionnels issus du pétrole. Mais ça, c'est lié à des problématiques d'échelle des unités de production.
Et ça, c'est le cas partout ? Enfin, je veux dire, en France, en Europe, ailleurs dans le monde
C'est globalement le cas partout, parce qu'en réalité, ce qui fait que les plastiques d'origine fossile ne sont pas chers, ce sont les dimensions des unités qui les produisent. Néanmoins, plus les capacités de production des usines qui produisent des bioplastiques augmentent, et plus le prix de revient de ces bioplastiques diminue. Alors, je vais vous citer un exemple qui est l'exemple du PLA, l'acide polylactique, qui est un polymère issu de l'amidon, donc issu de ressources renouvelables. Quand moi, j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, à la fin de ma thèse, au milieu des années 2000, le prix du PLA au kilo était aux alentours de 5 euros. Et aujourd'hui, en un petit peu moins de 20 ans, le prix moyen du PLA a diminué de moitié. On est aujourd'hui à peu près à 2,50 euros. Néanmoins, on est toujours plus cher qu'un polyéthylène ou qu'un polypropylène issu du pétrole, qui, eux, sont plutôt à des prix aux alentours d'1,50 euros le kilo. Donc les choses évoluent. Et plus la demande augmente, plus les capacités des unités de production augmentent et plus les prix de revient diminuent. Il faudra néanmoins attendre encore quelques années avant que le prix de ces bioplastiques soit compétitif avec celui de plastique fossile.
En tous les cas, c'est passionnant. On n'a pas fini de faire le tour de la question. Est-ce que d'ailleurs ça intéresse les usagers ? Allez, on termine là-dessus. Ça intéresse les usagers ou vous aimeriez que ça les intéresse plus, les usagers ?
Alors les usagers, globalement, sont très demandeurs de ces solutions.
Sans forcément savoir tout ce qu'il y a derrière.
Sans forcément en fait savoir tout ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, très souvent, les usagers ne comprennent pas nécessairement tous que les matériaux qu'on développe soient plus chers ou qu'ils résistent moins à un contact prolongé avec de l'eau. Néanmoins, c'est aussi l'avantage des matériaux qu'on développe. En fin de vie, on va pouvoir, on va dire très majoritairement, les laisser se biodégrader naturellement dans des composts industriels ou même dans notre compost à la maison. Mais on peut quand même dire que les usagers sont de plus en plus demandeurs de solutions davantage vertueuses pour les matériaux qu'ils utilisent.
Oui, il y a une vraie conversion.
Il y a une vraie prise de conscience du fait que le réchauffement climatique est un vrai souci et la surexploitation des ressources fossiles n'y est pas pour rien. Donc nous, on est un petit maillon dans la chaîne permettant de faire de notre planète une planète où il pourra faire bon vivre encore longtemps.
Merci beaucoup Philippe Evon pour toutes ces réponses à ce vaste sujet, donc ces agro-matériaux, ces matériaux biosourcés. Vous nous avez expliqué beaucoup de choses et cette interview est à retrouver en replay sur radioprésence.com. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.